avec l'assistance, parce qu'on a parmi nous un certain nombre de personnes, notamment d'habitants de Vassieux, qui auraient sans doute beaucoup à dire sur la façon dont... enfin, les relations entre la Piscirella et puis le village. Dernière intervention, celle de Maurice, puisqu'on a bien senti dans les interventions des uns et des autres que les relations avec l'association des pionniers du Vercors n'avaient pas forcément été très simples. Donc Maurice, qui est à la fois président national délégué de l'association des pionniers du Vercors et qui conduit également un certain nombre de recherches sur les questions et sur l'histoire du Vercors résistant. Donc voilà, Maurice qui va nous en dire un peu plus sur ces relations compliquées entre Joseph La Piscirella, les pionniers, et peut-être plus largement l'univers des anciens combattants.
Bien, merci beaucoup, merci Pierre-Louis, merci pour cette invitation, et surtout bravo pour l'organisation de cette manifestation à l'occasion de cet anniversaire. Alors, lorsque Pierre-Louis m'a demandé de plancher sur ce sujet, ça a évoqué effectivement quelques connaissances que j'avais de cette relation tumultueuse, mais je me suis plongé dans quelques centaines de pages de documents et de correspondances. À l'époque, on écrivait beaucoup de longues lettres, de longs courriers. Et là, j'avoue que j'ai découvert un scénario digne d'une série de Netflix, avec des rebondissements, du suspense, des coups tordus, des coups bas. Et donc je vais essayer de vous raconter un petit peu cette histoire et ensuite d'en tirer quelques pistes d'analyse. Alors dans un premier temps, donc au moment de l'inauguration et de la création du musée en juin 1973, la position de l'association est assez ouverte, mais assez équilibrée, mais un petit peu mitigée. On sent qu'il y a quand même quelques petites difficultés qui sont naissantes. Alors je vais vous lire un extrait d'un courrier que l'association adresse en août 1973. Donc dans ce courrier, on qualifiait le musée d'œuvre remarquable, tout en soulignant le fait que cette réalisation est faite à titre personnel, hors de l'association, et que cela risque de créer une certaine gêne et d'entretenir des malentendus. Pour remédier à ce malaise et dans le but d'éviter toute polémique et tout sujet de discorde, ne visant que le maintien de l'unité, l'association va organiser une table ronde qui va accueillir à Grenoble, outre Joseph La Piscirella, différents représentants d'associations. Et après cette discussion, l'Assemblée générale de l'association va donner, sur proposition du président, son agrément au musée. Donc jusqu'à présent, tout se passe à peu près bien. Mais les relations entre La Piscirella et l'association ne vont pas tarder à se tendre. Et à partir de 1975, La Piscirella reproche à l'association de ne pas inclure la visite du musée dans le cadre des manifestations qu'elle organise, dans le cadre justement de tous ces convois d'autocars qui montent à l'occasion des différentes commémorations. Donc, réponse, il y a beaucoup d'échanges, j'ai pu voir beaucoup de courriers. Donc, une réponse un mois plus tard. Les pionniers répondent à La Piscirella et ils indiquent qu'ils désapprouvent l'exploitation commerciale du musée. Ils critiquent notamment, justement, c'était évoqué par Céline, la vente d'objets divers, on y reviendra, ainsi que la présence de ce bar crêperie. Un mois plus tard, La Piscirella répond et il va se défendre en rappelant que ce musée est une œuvre strictement privée, dû à ma seule initiative et réalisé avec mes propres ressources après 15 années d'efforts. En ce qui concerne l'exploitation commerciale du musée, il faudrait préciser à nos camarades que l'entrée du musée étant gratuite, la vente d'articles souvenirs a toujours existé. L'association réplique en novembre en indiquant qu'elle n'a rien à reprocher à Joseph La Piscirella sur la création de son musée, bien au contraire, et nous reconnaissons ses mérites. Ce que nous déplorons, c'est ce qui a suivi à des fins commerciales personnelles. Et alors, en février 1976, il y a une sorte de mission d'inspection qui est dépêchée ici, composée de différents responsables associatifs, et qui vont ensuite rédiger un rapport au préfet de la Drôme. Donc en février, ils écrivent un rapport au préfet en décrivant le musée, je cite. « La pièce principale du musée, qui abrite de nombreux documents ou souvenirs authentiques d'une réelle valeur historique, s'est transformée en fait en bazar. » De par la présentation particulièrement évidente d'objets divers, entre parenthèses, poupées, chapeaux, cartes postales, livres, poteries, dont certaines comportent l'inscription en souvenir des héros du Vercors, tels des cendriers et pots à eau, tous destinés à la vente au sein même du musée. Le fondateur du musée qui en assure l'exploitation fait le maximum pour en recueillir de l'argent par l'exploitation commerciale de la mémoire de nos camarades disparus. Alors ensuite, il y a une phase où les relations semblent quand même s'aplanir. Le conflit redescend un petit peu en pression. Et puis, La Piscirella va faire des concessions. Il va dissocier le musée de l'endroit où sont vendus les souvenirs. Il va fermer le bar crêperie et il va revendre sa licence de débit de boisson. Et parallèlement, il y a une conciliation qui est tentée avec d'autres associations qui essayent d'arranger la situation. Deuxième saison de la série, en parallèle, il y a une autre manœuvre qui se prépare. Donc la Pissirella s'est rendu compte quand même qu'il était assez isolé face aux pionniers, qui à l'époque, c'est une association qui a un certain poids. Et afin de conforter cette position quelque peu isolée, il va décider de conquérir, cher Thomas, la mairie de Vassieux. Donc il va présenter une liste concurrente face au maire sortant. Et les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur de ses espérances, puisqu'il va recueillir 20 voix. Voilà. Donc ça ne marche pas. Et en parallèle, ou juste après, en 78, il va préparer, alors que vraiment on est dans une période où on pense que, j'ai vu dans les courriers, on pense que maintenant la situation s'est vraiment apaisée, tout va mieux. Il prépare avec Pierre Lassalle, qu'a cité Didier, la création d'une association concurrente aux pionniers. Et c'est ainsi qu'il y a donc un nouveau pas est franchi dans les discordes, avec la création, c'est en juin 78, création de l'Association nationale des anciens maquisards combattants et résistants du Vercors. Et où implante-t-elle son siège social? Eh bien ici même, au musée. Donc elle est présidée par Pierre Lassalle. Dans le bureau, il y a essentiellement des anciens membres de l'équipe radio et quelques membres du camp ou escadron bourgeois, dont bien sûr Joseph Lapissirella. Et alors parmi ces missions, qui sont un peu générales, contribuer à la mémoire du Vercors, etc., il y a des articles spécifiques qui traitent du musée. Alors je cite, donc la nouvelle association se donne pour but de cautionner le musée de la résistance de Vassieux en Vercors, de contribuer à étendre son prestige et d'assurer sa défense, de participer à son amélioration et de contribuer avec lui à mieux faire connaître ce que fut la résistance du Vercors. Et alors là, bien sûr, la création de l'association provoque vraiment la rupture. L'Assemblée générale des pionniers du Vercors condamne fermement cette création et elle invite tous les membres qui seraient tentés de la rejoindre à réfléchir sérieusement. Parce que bien sûr, tout cela se double d'une tentative de débauchage. Donc il y a un certain nombre de membres des pionniers qui reçoivent des courriers de la nouvelle association leur proposant avec insistance de passer dans l'autre association. Et tout cela aboutit en mai 79 à l'exclusion par l'Assemblée générale des pionniers des 9 membres fondateurs de l'association concurrente. Et pendant plus d'une décennie, cette nouvelle association va s'évertuer à concurrencer les pionniers du Vercors auprès des autorités locales et va notamment développer son propre cycle de commémoration qui est distinct du cycle quasi officiel qui se déroule depuis la Libération. Donc on va avoir un autre cycle de commémoration en parallèle à des dates qui n'ont rien à voir avec des événements historiques, mais juste pour être en décalage avec les autres commémorations. Alors malgré ces tentatives, cette nouvelle association ne menace pas vraiment la prépondérance des pionniers. Elle va avoir, j'ai retrouvé un document qui mentionne 200 membres. C'est dans les années 70, fin des années 70, les pionniers comptent entre 700 et 800 000 adhérents à peu près. Et cette tentative de débauchage ne va pas non plus créer une hémorragie d'une association vers l'autre. Et puis, par ailleurs, avec ce que l'association des pionniers avait à son actif, toutes les différentes réalisations, en réalité, sa place et sa prépondérance dans le Vercors n'est pas remise en cause. Et puis ensuite, alors je vais aller rapidement, mais le troisième épisode, ou troisième saison de la série, c'est au sein même de cette nouvelle association que des dissensions vont apparaître dans les années 80, où justement ces dissensions vont se cristalliser là aussi sur le musée, où là certains membres fondateurs commencent à être un petit peu lassé de cette histoire. Tout ça va se faire sur fond, là aussi, de scénarios les plus ou moins rocambolesques sur l'avenir du musée, avec des visites à l'Élysée, dont Lapissirella et ceux qui l'accompagnent reviennent convaincus de la possibilité de transformer ce musée avec un statut national dont on ne sait pas très bien ce qu'il recouvre. Et ils vont échafauder un certain nombre de plans qui vont commencer à agacer sérieusement, quelques membres de cette association pour qui tout cela va bien. Les actions de cette association vont commencer à péricliter dans les années 90 et elle va finir par se dissoudre en 2005. Voilà. Alors, on va essayer de tracer rapidement quelques petites pistes d'analyse après cette historique. Tout d'abord, moi, ça a suscité beaucoup d'étonnement lorsque je me suis plongé dans tous ces textes. D'abord, un étonnement quant à la virulence et la durée de cette polémique. Les propos tenus à l'oral ou de façon épistolaire sont quand même assez violents. Et tout ça va durer quand même 10-15 ans. Donc c'est vraiment une polémique qui va durer. Deuxième étonnement, c'est qu'à aucun moment, cette polémique ne porte sur le musée lui-même ou sur sa muséographie. On a un petit peu abordé les questions. Alors tout le monde est absolument d'accord, c'est vraiment unanime dans tous les écrits que j'ai pu trouver, bien sûr au premier rang desquels ceux des pionniers, en disant que ce musée est formidable, remarquable, ce qui est présenté est passionnant, des documents authentiques, c'est formidable. Et donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des polémiques sur une surreprésentation ou une sous-représentation de tel ou tel aspect de la résistance. Drôme versus Isère, les militaires versus les civils, les camps versus les compagnies civiles. Pas du tout. Donc la polémique, en fait, elle va vraiment se focaliser sur ce que Céline a abordé, sur ces aspects d'exploitation commerciale du musée, ce qui, à l'époque, en tout cas, revêt une importance vraiment particulière pour les acteurs de cette polémique. Si on se donne maintenant quelques petits éléments de contexte, depuis sa création, l'Association des pionniers du Vercors se montre très sourcilleuse sur l'histoire du Vercors. Dès avril 1945, le bureau adopte une déclaration considérant, je cite, comme tendancieux tout ce qui sera dit ou écrit sur le Vercors et qui n'aura pas été contrôlé au préalable par une commission de contrôle choisie au sein de l'Amicale. Et pendant des années, des décennies après, les dirigeants de l'association se montrent quand même très vigilants sur toute production de livres, de films, de conférences et autres qui ont trait au Vercors. Et donc c'est aussi un élément de contexte qui explique cette situation, cette espèce d'hypervigilance dont on peut comprendre les fondements, mais une hypervigilance sur tout ce qui peut être fait en dehors de l'association concernant le Vercors. Autre élément de contexte, bien sûr, si l'association a de nombreuses réalisations à son actif, des cimetières, des monuments, des plaques, deux nécropoles, beaucoup d'actions en termes de solidarité, la création d'une colonie de vacances, elle n'a jamais créé de musée elle-même, contrairement aux exemples qui ont été cités par Gilles Vernion notamment. Et donc c'est un reproche qui lui est fait par plusieurs acteurs. Donc c'est aussi un élément de contexte qui permet de comprendre à certains égards cette situation. Enfin, si on prend un petit peu de recul, en France, nous ne sommes pas dans la situation des États-Unis ou en Grande-Bretagne où il y a un seul organisme, une seule organisation qui rassemble tous les anciens combattants. La tentative qui a été faite par Vichy avec la création de la Légion des Français, des combattants français, pardon. Légion française des combattants. Et donc on est dans associatif combattant, dans un monde qui est par essence fracturé, qui est morcelé, et dans lequel les querelles, les concurrences mémorielles, les dissensions d'ordre politique, on se replace dans le contexte notamment des années 70, sont très fréquentes. Et finalement, cet épisode de dissension entre deux associations suite à l'histoire du musée n'est pas une affaire si exceptionnelle que ça. C'est aussi des éléments de concurrence mémorielle et aussi beaucoup de concurrence en termes de représentativité, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà. Donc c'est une spécificité de cette histoire, mais en même temps, ça se place dans un contexte plus général. Alors que reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Les acteurs, personnes physiques, sont tous décédés. Enfin, sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a plus d'acteurs de ces épisodes présents de nos jours. Du côté des acteurs, personnes morales, l'un a disparu. C'est cette association concurrente qui a fini par se dissoudre il y a une quinzaine d'années. Et finalement, ceux qui ont survécu, le musée et l'association des pionniers, sont ceux qui ont su se renouveler, se transformer et répondre à ce défi. Donc on va en parler. Le musée a connu un changement de statut, une nouvelle muséographie. On va parler de son avenir. Quant à l'association des pionniers de Vercors, elle a su s'ouvrir, notamment en transformant ses statuts pour s'ouvrir aux familles, aux amis, pour assurer sa pérennité. Elle a transféré à l'État ses nécropoles, là aussi, pour assurer la pérennité. Et donc, finalement, on voit bien que ces acteurs mémoriels sont soumis à cet impératif de transformation, de renouvellement permanent. Et je pense, pour terminer, que ce type de manifestation qui nous réunit aujourd'hui, musées, associations et élus locaux, est aussi une contribution à cet impératif de renouvellement et de travail en bonne intelligence.
Merci beaucoup, Maurice. Je propose peut-être maintenant qu'on ait un peu un temps d'échange avec avec la salle, si vous aviez des questions, s'il y a des sujets que vous souhaitiez traiter, et puis surtout s'il y a, alors, s'il y a un certain nombre de personnes, alors peut-être que je désignerai, puisque je connais notamment la famille Beck qui avait vendu la maison, enfin la ferme, hein, qui est devenue le musée par la suite, puis des proches voisins, Jean-Michel, Lulu, d'autres habitants de Vassieux qui pourraient eux aussi témoigner sur peut-être les relations compliquées à la fois de Joseph Lapicerella avec le village. On a évoqué le triste épisode des élections municipales de 1977, mais aussi peut-être sans doute l'existence de ce musée a pu apporter à l'économie touristique locale, et Céline l'a également évoqué. Philippe, tu as...
Moi, c'est plus une expérience, en fait. C'est le regard d'un enfant de 10 ans. Quand Pierre-Louis m'a parlé de la commémoration, donc c'était il y a 45 ans, qui ensuite est devenu prof d'histoire. Je ne cherche pas à réhabiliter Lapicerella, mais combien ce musée a compté pour moi, finalement. Et je l'ai réalisé avec recul. Mes parents, ça aussi j'ai réfléchi, m'ont amené enfant, donc 8 ans, 10 ans, sur 3 lieux de mémoire. Comme quoi, c'est quand on emmène des enfants dans des musées ou sur des lieux, finalement, ça peut avoir une importance. Ces 3 lieux, pour faire rapide, c'était la Normandie, la plage d'Omaha Beach, lieu d'un massacre, Oradour-sur-Glane, c'était pas non plus très gai, et Vassieux-en-Vercors. Et le musée de Lapicerella, c'était vraiment un lieu important. Juste 2-3 mots sur ce musée. Bon, c'est un cabinet de curiosité. C'était plein d'objets. Plein d'objets disposés un peu n'importe comment. Et mon regard d'enfant, je pense à 2-3 objets. C'est premièrement le panneau où il y a les atrocités. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'est-à-dire les photos de Jean Veillère, je crois, enfin de l'équipe de Die. Ce fameux panneau terrible où on avait rajouté une sorte de sang qui coulait autour des photos. Donc quand on a 8-10 ans, ça m'avait impressionné. Donc on avait une sorte de lumière qui bougeait, enfin je ne sais plus. Gilles Vergnon a dit que, comment dire, on ne comprenait pas l'objectif de la résistance, mais il y avait quand même une partie sur les camps de concentration. Et moi, je sais que dans ma tête, en particulier la sculpture où il y a un personnage enterré dans le sol avec les mains jointes et je crois qu'on fracasse le crâne dans un camp, je ne me rappelle plus lequel, petit à petit, en devenant adolescent, j'avais compris que finalement, les résistants, ils avaient combattu contre le nazisme. Enfin, dans ma tête, ça m'apparaissait assez clair. Finalement, c'est le camp de concentration. Quel est le rapport entre le Vercors et le camp de concentration? Mais finalement, je pense que dans mon esprit, j'ai commencé... Voilà, c'est des choses de réflexion. Et pour terminer, le dernier souvenir que j'ai, enfin vraiment, c'est l'histoire des tasses. Les tasses du nid d'aigle d'Hitler, là, avec les serviettes, etc. Et quand on finissait la visite, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était un musée de site. On était face à une sorte de bloc, Lapicerella, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on avait un résistant en face de nous. Et on avait l'impression que Lapicerella, il avait sauvé tout le Vercors, que c'était c'était pour un enfant, c'était une figure. On pouvait rencontrer, en fait, un vrai résistant en chair et en os. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, et j'avais même la sensation que c'était que Lapicerella était allé combattre contre Hitler. C'est-à-dire que c'était lui qui était allé au nid d'aigle, qu'il avait ramené la tasse, qu'il avait combattu. Ça, c'est vraiment ma vision d'enfant. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour finir? Et alors, la dernière anecdote, bon, finalement, un enfant, les histoires de polémiques avec les pionniers et tout, on ne les avait pas. Le musée, ça, c'était très enrichissant. Alors, c'est important hein, dans l'histoire, parce qu'après, j'ai réalisé que Lapicerella, quand je suis devenu historien, et finalement, c'était aussi un chercheur. Il a collecté des témoignages, et j'ai découvert ça après coup. Et en fait, l'anecdote des crêpes, moi, ça m'a fait penser à une chose. Je ne sais pas si vous avez visité, il y a longtemps, l'auberge de Perbeil. Finalement, à la fin, quand on avait les explications de l'auberge avec le serviteur, etc., ben, en fait, les gens vous vendaient des cartes postales et des saucisses de la Haute-Loire ou je ne sais pas quoi. Et finalement, moi, en tant qu'enfant, ça ne me choquait pas d'acheter des friandises à la fin d'un musée qui pourtant était sur une chose qui était horrible. En fait. Voilà. Bon.
Merci. C'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent des souvenirs... de leur première découverte du musée étant enfant. Voilà, c'est parfois le premier musée qui a été visité par certains Drômois et ça a souvent été une expérience marquante. Ouais. voilà, parmi les assistantes, les habitants.
Moi, je vais juste dire deux mots sur un petit peu ce que le musée a apporté au niveau économique, en fait, sur le village. C'est vrai que jusque dans les années, jusqu'à l'ouverture du musée, en fait, pour reparler de ce qui s'était passé, des événements, mis à part la nécropole, il n'y avait rien sur le village qui pouvait, un petit peu la fresque à l'église, la nécropole, et c'est tout, quoi. Et c'est vrai que dans les années, enfin, quand, à l'ouverture du musée, c'est commence à y avoir les cars qui commencent à se développer, les voyages touristiques, et tout ça. Alors, je remettrai peut-être en cause un petit peu les chiffres qui sont annoncés, hein, que tu as annoncé, Céline. Mais je sais que toi, c'est... Parce que ça a toujours été de polémique, hein. Il annonçait 200 000 visiteurs par an. Je pense que le compteur, c'est vrai qu'il y avait un compteur, mais il devait passer plusieurs fois dans la journée. Parce que 200 000 personnes à Vassieux, enfin, sur une année. Surtout qu'il n'était pas ouvert l'hiver, il était ouvert que... du mois de mai à octobre, quoi, hein. C'était que sur 6 mois. Donc voilà, je pense que les chiffres ont toujours. Mais bon, il faut reconnaître quand même que ça a été aussi une trentaine de cars par jour. C'est vrai que ça, c'était, on le voyait, puisque nous, on avait un restaurant, et à l'époque, tous les restaurants, on était bien contents d'avoir quand même le musée qui a été aussi une source. Une source pour de tourisme, hein, pour le Vercors. À l'issue de ça, ben, les pionniers aussi avaient développé la nécropole, la partie nécropole, avec la petite pièce derrière la salle du souvenir, qui était tenue aussi. Alors là, parce que comme ici, il y avait Monsieur Lapicerella qui était maquisard et qui envoyait, ben, les pionniers aussi faisaient une permanence l'été. Sur leur salle du souvenir pour pouvoir un petit peu concurrencer. Et là, j'en reviens un petit peu à la guéguerre qu'il y avait entre eux, voilà, pour pouvoir concurrencer un petit peu le musée. Donc voilà, enfin, on ne peut pas négliger l'aspect économique que le musée a pu apporter au village et au Vercors en général, avec après tous ces premiers épisodes, ben, quand vous avez raconté. Hein, il n'a pas été très aimé par la population. Alors, pourquoi ça, moi, j'étais trop jeune à l'époque. Mais c'est vrai que l'épopée, je crois que le point final, ça a été l'épopée des élections municipales quand il se présente et qu'il ramasse une belle veste, hein, enfin, comme on dit. Voilà, toute son équipe est renvoyée sur le... Voilà. Et à la sortie, et ben après... une guéguerre avec la municipalité en permanence, enfin, tout ce que vous avez vu. C'était un drôle de personnage, voilà. Mais il faut lui reconnaître qu'au niveau économique, c'est vrai que ça a apporté quand même. Voilà.
Oui, il y avait énormément de demandes pour l'inauguration. Et je me rappelle de cette fresque qui s'est terminée, mais au dernier moment, quoi, la veille. C'est installé. Voilà. Et beaucoup de gens venaient à cette époque-là, parce que c'était, ça leur rappelait beaucoup de souvenirs de leur vécu, de la période de la guerre.
Voilà. Et votre grand-père faisait partie des produits dérivés du musée, parce qu'il y a, me semble-t-il, une photo de lui en train de marteler sa faux sur une carte postale du musée.
Il tapait les faux pour les aiguiser, et il a été diffusé en de très très nombreux exemplaires.
Anne-Marie, Gilbert, notre plus proche voisin, je ne sais pas si vous avez des...
Moi, je suis arrivé à Vassieux en 76. Et en 79, on avait avec René Allard, on avait monté un syndicat d'initiative. Et M. Lapicerella était rentré aussi avec tous les trois. Et pour arriver, on demandait une petite cotisation à tous les commerçants, à tous ceux qui avaient des gîtes, tout ça. Puis on avait fait un petit document avec, il fallait des encarts et tout ça. Et M. Lapicerella, il ne voulait pas payer sa cotisation, il ne voulait pas, il voulait qu'il y ait un encart, mais que ce soit sa fresque et tout ça. Bon, on s'était un peu fâchés, il était parti, il avait démissionné. On est resté, je ne sais pas, au moins 3 ou 4 ans. Après, c'est Samy, son ami qui habitait à Saint-Agnan, qui avait un peu arrangé les choses. Bon, on retournait se parler, mais on est resté au moins 3 ou 4 ans. Et c'était la guerre entre nous deux.
Voilà. Ah, Lulu, si tu...
Lapicerella, je ne l'ai pas très très connu parce que moi je suis parti de Vassieux à 12 ans et j'en suis revenu, j'avais 60 ans, quoi. Alors en fait, bon, je venais quand même tous les week-ends chez moi Et je sais qu'il n'était pas très aimé par mes parents, surtout par ma mère, parce qu'il avait publié sur un livre, je ne me rappelle plus lequel c'est, que mes parents, pendant les événements, parce qu'on ne disait pas la guerre, on disait les événements, pendant les événements, mes parents s'étaient réfugiés dans la forêt. Moi, j'avais 3 mois. Et ma mère avait, avec le choc du bombardement, de tout ça, elle avait perdu le lait, sa montée de lait pour me nourrir. Alors, ils avaient emmené une chèvre. Et la pizzeria, là, il avait publié que je têtais même la chèvre. Ça ne leur avait pas plu, ça. Elle lavait mes couches dans les flaques d'eau. Elle rinçait le biberon là où elle pouvait. Elle ne faisait pas bouillir, hein.